France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Joséphine Reinhardt, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique, c'est Alexandre Dang. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée à l'influence des États-Unis dans la Caraïbe. Nous parlions hier du canal de Panama que Donald Trump a menacé de reprendre histoire de faire pression sur l'État de Panama pour obtenir d'autres faveurs. Aujourd'hui, Cuba, que Donald Trump toujours a replacé sur la liste des États terroristes dès sa prestation de serment. Les Cubains sont désabusés.
De nuevo todo el bloqueo, todo en contra de Cuba.
Une fois de plus, avec le blocus, tout est contre Cuba. L'objectif des États-Unis est de nous écraser.
Je me fiche de la politique. Mon combat quotidien est de nourrir ma famille et d'aller de l'avant.
J'ai souvent été déprimée, j'ai pensé jeter l'éponge, quitter le pays tellement de fois. Quand il y a une énième coupure de courant, je me dis « mais je ne mérite pas ça ». Et en même temps, je me dis « hey, tu ne vas pas passer les 80 ans, 90 ans ou même les 100 ans de ta vie à jouer les victimes ».
Pour cette dame, comme pour des milliers de Cubains, c'est en effet une vie entière frappée du sceau de l'embargo, décidé le 3 février 1962 au nom de la lutte contre le communisme par John Fitzgerald Kennedy, qui n'oublia pas de commander 1200 cigares cubains la veille de son entrée en vigueur. L'embargo persiste aujourd'hui, assorti de mesures qui tantôt l'assouplissent et tantôt le durcissent, selon l'humeur ou la couleur politique du président états-unien en poste. Pour Donald Trump, il n'aura pas fallu plus de quelques heures après sa prestation de serment pour publier une série de décrets dont l'un concerne l'île Oni, à 430 km des côtes de Floride. Cuba est donc depuis le 20 janvier de nouveau sur la liste des organisations terroristes. Alors certes, elle en avait été retirée par Joe Biden, mais pour quelques jours seulement, car le président démocrate avait quant à lui attendu non pas les premières heures de son mandat, mais les dernières. Les 11 millions d'habitants de l'île n'ont donc pas eu le temps de s'en réjouir, contraints qu'ils sont de toute façon par toutes les pénuries, les coupures de courant, les revenus du tourisme qui ont été divisés par deux depuis la pénurie de Covid. Si les sanctions états-uniennes nourrissent les discours du président cubain, c'est néanmoins contre lui Miguel Díaz-Canel qu'avaient manifesté les Cubains en nombre en 2021. Bonjour Margot François.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes doctorante à l'Institut français de géopolitique et au centre de recherche Géode, géopolitique de la datasphère. Votre thèse porte sur les enjeux géopolitiques de l'arrivée de la connexion Internet à Cuba. Nous sommes également en lien avec Thomas Posado. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en civilisation latino-américaine contemporaine à l'Université de Rouen, chercheur à l'ERIAC, co-auteur de « Révolution au pluriel à Cuba de 1868 à nos jours », paru aux éditions Sileps, et co-écrit avec Jean-Baptiste Thomas, que nous appellerons d'ailleurs tout à l'heure pour un focus consacré à Guantanamo. Alors, d'abord, en décidant, juste après sa prestation de serment, vraiment quelques heures après, de remettre Cuba sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, 5 jours après que Joe Biden l'en eut retiré, est-ce que Donald Trump, Thomas Posado, a dû justifier sa décision? Est-ce qu'il est obligé de se justifier? Est-ce que la loi l'y oblige?
Il me semble que c'est simplement une annulation du décret qui a été pris très peu de temps auparavant, 5 jours avant, vous le disiez, et cette décision, elle s'associe à d'autres mesures, notamment la remise en place du titre 3 de la loi Pemberton, qui était un durcissement du blocus dans les années 90, et qui permet de contester les Cubains aux États-Unis ou que toute personne aux États-Unis puisse porter plainte contre les nationalisations mises en place par Cuba dans les années 60 et qui concernent y compris des entreprises européennes, enfin le Havana Club est détenu par Pernod Ricard par exemple, et on a cette politique offensive qui se comprend dans l'administration Trump avec la nomination d'un ministre des Affaires étrangères comme Marco Rubio qui est un Cubain hispano-américain, un sénateur de Floride, qui a construit sa carrière politique en se liant avec les secteurs les plus durs de l'opposition cubaine pour affronter et pour, dans l'espoir de renverser le régime cubain depuis les années 60.
Ses parents à lui, Marco Rubio, avaient quitté Cuba en 1956, 3 ans avant la chute de Batista. D'ailleurs, il arrivait au pouvoir de Fidel Castro. Est-ce qu'on sait d'où leur vient leur rancœur aujourd'hui contre le régime communiste? Est-ce qu'ils ont perdu leur terre sous le régime castriste? Parce que, encore une fois, ils sont partis avant que Fidel Castro n'arrive.
J'ignore la raison précise. Enfin, je connais pas les raisons de sur la famille Rubio. Par contre, enfin, la carrière de Marco Rubio s'est fondée là-dessus, s'est fondée sur ce lien et sur la défense la plus acharnée du blocus dont souffre Cuba. Et j'ai compris donc du coup en s'alliant avec d'autres oppositions comme l'opposition vénézuélienne qui sont en Floride très puissantes et qui lui permettent d'obtenir ses réélections. Il faut le comprendre aussi comme un enjeu de politique interne.
En tout cas, Marco Rubio, il partage avec Donald Trump ce vieux rêve de changement de régime de Cuba depuis 70 ans, que Donald Trump justifie. Alors, le fait de remettre Cuba sur la liste des États terroristes, Donald Trump ne l'a pas justifié formellement, mais en disant quand même que le gouvernement cubain refusait d'extrader les membres de l'ELN, l'Armée de Libération Nationale de Colombie. Il parle aussi de son alliance avec le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro. Et quand Cuba a été placé sur cette même liste des pays soutenant le terrorisme entre 82 et 2015, c'était pour précisément avoir hébergé, selon les dires du gouvernement états-unien, des membres de l'ETA en Espagne ou des FARC colombiennes. Maintenant, quelles sont les conséquences immédiates, Margot Pierre, de ce décret qui donc replace Cuba sur la liste des États terroristes?
Alors, si vous vous adressez à moi.
Oui, Margot François, pardon, je ne sais pas ce que j'ai. Je pensais vous avoir.
Alors, les conséquences directes, il y en a plusieurs. Alors déjà, pour les investissements étrangers, il devient plus compliqué pour les investisseurs étrangers de faire affaire avec Cuba, parce qu'en fait, lors du premier mandat de Trump, non seulement il a défait toutes les avancées qui avaient été faites par Obama, mais il a rajouté 275 sanctions qui viennent alourdir l'extraterritorialité de l'embargo américain, donc qui vont rendre un peu toutes ces mesures plus compliquées et l'attrait de l'investissement étranger va chuter, mais il va aussi très durement impacter le tourisme. Par exemple, pour nous, les touristes européens, si on se rend à Cuba, désormais sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme, on n'est plus éligible à l'ESTA, donc on doit demander un visa pour ensuite aller aux États-Unis, donc ça fait réfléchir à deux fois avant de choisir Cuba comme situation touristique. Et ça, Donald Trump le justifiait par le fait que, et à raison, 80% des activités et infrastructures liées au tourisme à Cuba sont détenues par la FARC, les forces armées révolutionnaires cubaines. Donc le but, c'est vraiment d'aller frapper durement au portefeuille des élites cubaines avec ces mesures-là.
Est-ce que les exilés cubains qui vivent aux États-Unis pourront toujours envoyer de l'argent à leur famille, puisque le fait de placer un État sur une liste d'États terroristes, eh bien ces États ne peuvent plus percevoir d'aide économique? Est-ce que cet argent, les renesas, comme on les appelle, les transferts de fonds aux personnes qui vivent sur l'île, sont toujours possibles, Margot François?
Alors, ça a été une des mesures presque assassines de Donald Trump pendant son premier mandat, sachant que bon, on parlait de Marco Rubio, c'est quand même lui qui a orchestré toute la ligne dure de la politique de Trump du premier mandat et qui maintenant est à la tête du département d'État. Donc on a de quoi s'inquiéter pour ces questions-là, sachant que pendant le premier mandat de Donald Trump, il avait interdit les Western Union et très très durement restreint ces fameuses remessas, les envois d'argent par les familles, qui sont très importantes pour l'économie cubaine, qui a besoin de devises pour importer des biens, des produits de première nécessité, de l'alimentation, puisque Cuba n'a pas la souveraineté alimentaire et dépend à 70% de l'importation. Donc ça a des conséquences directes sur même les petites économies privées touristiques, les casas particulares, donc les maisons d'hôtes, les gens qui dépendent de leur famille, de la diaspora pour vivre dans la vie quotidienne. Et c'est un coup très dur porté à l'économie cubaine.
Thomas Posado, pendant ces 5 jours durant lesquels Cuba n'était plus sur liste noire, parce qu'on rappelle, Joe Biden a donc retiré Cuba de la liste et Donald Trump y a replacé aussitôt sa prestation de serment effectuée. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pendant 5 jours, est-ce que les conséquences ont été tangibles, immédiates?
C'est difficile hein, d'imaginer des flux économiques qui redémarrent en 5 jours. Ce qu'on a pu constater, c'est du côté du gouvernement cubain, des libérations assez massives. Il y a eu une annonce de 500 libérations de ce qui est estimé prisonniers politiques. Sachant que, ce volume avait grandement augmenté hein, depuis les manifestations du 11 juillet 2021, où il y a eu autour de 500 arrestations.
Quel est le lien logique, pardon, Thomas Posado, entre le fait de retirer un État de la liste des organisations terroristes et de voir ce même État libérer des prisonniers? C'est que c'était une condition exigée par Joe Biden?
Ça n'était pas été présenté comme tel. Par contre, c'était un signal pour montrer une forme d'apaisement et essayer de prévenir les mesures qu'a fini par prendre Donald Trump de durcir à nouveau le dialogue avec Cuba. C'était une manière de montrer, de donner des gages à l'administration états-unienne et d'essayer de faire un geste réciproque face à ce qu'avait pu faire Joe Biden de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. Ce nombre de prisonniers politiques, il était déjà extrêmement extrêmement élevé depuis le 11 juillet de 2021
et les grandes manifestations.
Voilà, ces grandes manifestations qui étaient les plus grandes hein, depuis la révolution cubaine, qui étaient contre le gouvernement de Díaz-Canel, dans une situation où Cuba commençait à connaître des très grandes difficultés, des pénuries de produits de première nécessité. Et ce volume de prisonniers politiques a augmenté jusqu'à un peu plus d'un millier hein, de personnes. Et les arrestations, ces manifestations n'ont pas été réprimées dans le sang, mais les arrestations ont été particulièrement massives et les condamnations particulièrement brutales. On parle d'entre 9 et 30 années de prison pour les personnes qui ont été condamnées dans ces manifestations. L'idée du gouvernement cubain de faire une vague de libération à ce moment-là, c'est d'essayer de prévenir donc, comme je le disais, un retour des mesures hostiles par Donald Trump, quelque chose qui a visiblement été sans effet.
Alors on reviendra sur ces grandes manifestations de 2021 qui étaient plutôt tournées vers le pouvoir cubain en place que vers les États-Unis à ce moment-là, ce qui n'empêche pas de dérouler encore, puisque notre série porte sur la Caraïbe dans l'ombre des États-Unis, déroulé encore ce fil qui lie aujourd'hui, et ce fil totalement rompu d'ailleurs, qui lie les États-Unis à Cuba. Pour comprendre, il serait difficile d'opposer vraiment la politique de Joe Biden à celle de Donald Trump, puisque Joe Biden a en effet retiré Cuba de cette liste noire, mais vraiment à la fin de son mandat, n'a pas cherché non plus à lever l'embargo, cet embargo imposé depuis 1962 à Cuba. Pourquoi, Margot François, pourquoi Joe Biden, mais surtout Barack Obama, qui avaient davantage témoigné de l'intérêt pour le sort de la population cubaine, n'ont jamais pris la décision de lever cet embargo sur Cuba?
Alors justement, vous posiez la question de est-ce que Donald Trump a dû justifier de ses choix de durcir les sanctions. En fait, il faut surtout justifier systématiquement dès qu'il y a un allègement des sanctions, et notamment la levée de l'embargo, elle est soumise à des lois assez strictes. Pour une levée de l'embargo, il faut un vote aux 2/3 du Congrès américain qui aura au préalable, pour pouvoir déposer cette mesure, dû justifier d'une forme de transition démocratique à Cuba, ce qui n'a jamais été le cas. Et même au moment du réchauffement diplomatique avec Barack Obama, le Congrès était républicain. Donc impossible de l'envisager. Et Joe Biden, lui, s'est retrouvé un petit peu les mains liées face à la situation, on l'évoquait, des manifestations de juillet 2021 et de leur répression. Derrière ça, il a fallu être très prudent au moment d'alléger des sanctions sur Cuba pour ne pas se montrer complaisant avec un régime et des preuves manifestes d'une répression des manifestations.
Alors, il y a à la fois les outils dont disposent les États-Unis pour lever l'embargo, et comme vous le disiez, Margot François, ça reste très difficile, et la loi états-unienne stipule que le président ne peut pas décider seul de cette levée. Il y a aussi l'ONU, l'Assemblée des Nations Unies. Chaque année, depuis 32 ans maintenant, Cuba présente une motion à l'ONU qui condamne l'embargo. Et l'AG des Nations Unies vote quasiment toujours unanimement contre le blocus depuis les années 90 au moins. Il y a quoi, Thomas Posado, les États-Unis et Israël qui parfois votent contre cette levée. Est-ce que les changements de majorité, notamment en Amérique latine, peuvent modifier à terme les équilibres des votes de l'ONU sur cette question? Je pense à l'Argentine, par exemple, qui est désormais présidée par Javier Milei, qui est un président de droite, pour le dire très vite, très libéral.
Oui, voilà, mon premier match avec son droite. Bon, là, sur le dernier vote à l'ONU, c'était un rapport de force de 187 pays qui ont voté pour la levée de cet embargo contre deux pays, les États-Unis et Israël, qui ont voté pour son maintien. Donc, on est sur un rapport de force qui est extrêmement favorable à Cuba, et enfin, vous faudrait beaucoup de pays pour que ce rapport de force puisse être inversé. Le cas de l'Argentine est intéressant que vous mentionniez, c'est que même l'Argentine de Javier Milei, le pays le plus ouvertement anticommuniste, enfin, proche de secteur d'extrême droite, a voté contre cet embargo, était dans les 187 pays, et ça a occasionné une crise gouvernementale en Argentine, ce vote, puisque Javier Milei a limogé donc la ministre des Affaires étrangères de son propre pays pour avoir fait ce vote. On est dans une situation où cet embargo apparaît comme une relique de la guerre froide, et au vu de l'ensemble des autres pays de la planète, les États-Unis sont extrêmement isolés sur cette question, y compris en Amérique latine. Alors, enfin, quelques pays quand ils arrivent très 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 à droite du spectre politique peuvent montrer des velléités de défendre les États-Unis, mais ce sont eux qui sont isolés et pas le gouvernement cubain sur cet aspect, même si, de fait, malgré l'illégalité de la mesure au point de vue du droit international, le blocus se maintient.
Margot François ?
Oui, je voulais rajouter une petite anecdote assez intéressante, c'est qu'en 2016, donc au fort des reprises des échanges diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, pour la première fois, sur ce vote aux Nations Unies, les États-Unis eux-mêmes se sont abstenus.
Donc c'était sous Barack Obama, juste avant l'élection de Donald Trump.
Pour montrer, voilà, c'est une forme de reconnaissance de l'administration Obama que la politique d'isolement de Cuba sur la scène internationale ne fonctionne pas. Alors, et pour montrer aussi qu'il n'y a pas vraiment d'implication concrète de ce vote-là sur la levée ou non de l'embargo qui reste entre les mains du Congrès.
Cette politique de l'isolement renforcée par l'ajout par Donald Trump de Cuba à la liste noire des États qui soutiennent le terrorisme a plusieurs objectifs. Alors Thomas Posado, vous évoquiez tout à l'heure les objectifs politique interne, puisque Marco Rubio a bâti toute sa carrière politique sur le soutien de la communauté cubaine anticastriste à Miami, et mine de rien, ça compte, ces enjeux de politique interne pour le secrétaire d'État de Donald Trump. Il y a aussi le fait de, très certainement, provoquer davantage de colère dans la société cubaine contre le gouvernement cubain, sauf que celui-ci désigne les États-Unis comme responsable de tous les maux. C'est donc sans fin, et c'est ainsi que Miguel Díaz-Canel, donc le président cubain, s'exprimait le 11 juillet 2021 au sujet des manifestations, des grandes manifestations qui avaient lieu à Cuba.
Nous n'allons pas renoncer à notre souveraineté, à l'indépendance du peuple ou à la liberté de cette nation. Et je vous confirme qu'il y a de nombreux révolutionnaires dans ce pays, dans cette ville, et que nous sommes prêts à donner notre vie. Et nous savons que certains incidents sont orchestrés. Nous savons qu'il y a actuellement des masses révolutionnaires dans les rues de la Havane face à des éléments contre-révolutionnaires. Mais nous n'admettrons aucun mercenaire contre-révolutionnaire vendu au gouvernement des États-Unis. Que personne ne manipule notre situation. Et nous n'allons permettre à personne de défendre un plan qui n'est pas un plan cubain. qui n'est pas un plan pour la nation cubaine, qui n'est pas un plan pour le bien-être des Cubains et qui est un plan annexionniste.
Miguel Díaz-Canel, le président cubain. En 2021, Margot Pierre, c'est vous qui nous avez fait connaître ce discours de l'époque qui est très peu passé sur les chaînes françaises. De quoi parle-t-il quand il parle des mercenaires contre-révolutionnaires? C'est ainsi qu'il désignait les manifestants en 2021. Est-ce qu'il y a une certitude aussi dans la population cubaine de ce qu'il y a cette contre-révolution manipulée par les États-Unis?
Alors oui, ça c'est. Alors ce discours était tout à fait édifiant. D'ailleurs, il a été retiré hein, du site du journal officiel du Parti communiste cubain depuis, parce que on peut y voir presque un appel à la guerre civile de la part de Miguel Díaz-Canel, qui appelle les vrais révolutionnaires à prendre les armes contre ceux qui seraient effectivement des agents de l'étranger. Et ça, en fait, ça fait écho au discours d'unité nationale qui a été mis en place par Fidel Castro avec la figure du traître, une figure très très forte, avec cette analogie du gusano, le ver dans la pomme, qui serait en fait le contre-révolutionnaire, l'ennemi en interne, qui servirait les étrangers impérialistes américains, hein, je cite. Et on a cette figure du traître qui reste très très forte, et donc même quand il y a une colère qui est spontanée face à une situation de crise qui est insoutenable pour la population cubaine, et ben si le régime va dans un premier temps reconnaître que le pays fait face à des difficultés, dans le discours, on va très vite bifurquer sur le fait qu'il y a une puissance étrangère qui va s'immiscer, profiter de ces difficultés pour essayer de perturber l'ordre interne du pays. Et ça, ça a toujours été le cas, mais ça l'est d'autant plus maintenant avec l'arrivée des réseaux sociaux et avec la possibilité de mettre en évidence qu'effectivement, il y a des diffusions de fake news, des campagnes de manipulation, de hashtags, pour essayer de jeter un peu de l'huile sur le feu dans ces contextes un peu insurrectionnels internes à l'île.
Ça, c'est d'ailleurs votre sujet vraiment de recherche. Votre thèse porte sur les enjeux géopolitiques de l'arrivée de la connexion Internet à Cuba. On prendra le temps d'en parler tout à l'heure. C'est vraiment passionnant. D'abord, pour rester sur ces relations entre les États-Unis et Cuba, Thomas Posado, il se trouve que quand Miguel Canel Díaz est arrivé au pouvoir à Cuba en 2018, donc il y a eu très longtemps Fidel Castro depuis la révolution cubaine, lui est mort en 2016. Entre-temps, il avait été remplacé par son frère car il avait de graves problèmes de santé. Donc Raúl Castro avait pris le relais. Miguel Canel Díaz arrive en 2018 aux États-Unis. C'est Donald Trump qui est au pouvoir. Lui, Miguel Canel Díaz, n'a pas connu la révolution. C'est le premier dirigeant cubain à n'avoir pas vécu et donc encore moins pris part à cette révolution. Est-ce qu'il a cherché à donner des gages aux États-Unis, ne serait-ce que pour obtenir la levée de l'embargo, un peu de la même manière qu'hier on expliquait que à Panama, dans l'État de Panama, le président était un petit peu coincé entre une volonté de faire face aux États-Unis, mais aussi une obligation qu'il avait de donner des gages pour soutenir une dépendance financière aux États-Unis.
Panama a vraiment une dépendance financière avec Cuba. Le dialogue est rompu, et d'autant plus quand Miguel Díaz-Canel arrive au pouvoir, c'est Donald Trump, vous le disiez, donc qui a la Maison Blanche et qui n'est pas du tout dans un dialogue. Enfin, on a un pouvoir qui maintient cet embargo depuis les années 60, où le pouvoir cubain a vu passer 8-10 présidents qui ont eu tous la même volonté de changement de régime et qui sont tous cassés les dents sur cet aspect-là. C'était un enjeu extrêmement important à Cuba, vous le disiez, de cette succession de la génération historique qui avait fait la révolution et qui, certes, n'avait pas de légitimité dans les urnes, mais avait la légitimité de ce moment historique d'avoir fait cette révolution. Miguel Díaz-Canel n'est plus un membre de cette génération, ne peut plus justifier, donc c'était une transition jugée à haut risque que, au final, Miguel Díaz-Canel a réussi à se maintenir au pouvoir dans cette situation. Là, mais assez rapidement, il y a de nouvelles difficultés pour le gouvernement cubain et pour la société cubaine surtout. La pandémie qui arrive dès 2020 va créer un blocage du tourisme, bah, comme dans tous les pays du monde, mais Cuba dépend beaucoup du tourisme et des devises dont proviennent le tourisme. Et le nombre de touristes, qui était supérieur à 4,5 millions en 2019, va chuter brutalement de l'année 2020. Et depuis, il ne dépasse pas les 2 millions et demi, ce qui est un vrai problème pour la société cubaine, pour l'économie cubaine. On estime qu'il faudrait 4,5 millions de touristes pour avoir 1% de croissance. Donc là, dans cette situation, Cuba est en récession et Cuba manque de devises par la réorganisation des circuits touristiques liés à la pandémie de 2020. Donc c'est ça le défi qu'a affronté Miguel Díaz-Canel. La relation aux États-Unis, de fait, elle se pose pas dans les mêmes termes qu'à Panama, puisque de fait le dialogue est rompu et le pouvoir cubain n'a pas beaucoup à donner des gages. Il peut avoir des vagues de libération dans des moments de négociation comme ceux qu'on a vécu en janvier, enfin, négociation entre guillemets de bras de fer autour de cette question de remettre Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme, mais pas de dépendance financière comme peut l'avoir Panama.
Les hôtels à Cuba sont remplis à 25% de leur capacité. Alors seuls les Canadiens continuent à venir en nombre, 780 000 l'année dernière. Les touristes français étaient 9% de moins en 2024 qu'en 2023, 17% d'Italiens en moins. On pourrait continuer, la liste est très longue. Les États-Unis, surtout les Américains, ils étaient 500 000 par an avant le Covid, connus pour donner de très généreux pourboires d'ailleurs. Ils sont aujourd'hui vraiment très peu nombreux et l'acte de Donald Trump va, comme vous le disiez Margot François tout à l'heure, tarir encore ce nombre de touristes dans un contexte, une situation sociale à Cuba qui s'est considérablement détériorée.
Ça, c'était l'année passée. Il y en avait beaucoup plus. Du riz, du sucre, des haricots, du beurre. On avait tout avant. Maintenant, ouais, il n'y a plus grand-chose.
En ce moment, il n'y a pas de lumière. Je ne me plains même plus. On est tellement habitués à vivre sans. Nous ne pouvons même pas nous procurer tous les médicaments dont nous avons besoin. De nombreux produits de première nécessité manquent. Sur 5 médicaments, vous pourrez peut-être en trouver 3.
Alors c'est dans ce contexte-là, économique, social à Cuba, que sont prises ces nouvelles restrictions décidées par Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Margot François, sur les pénuries? Pourquoi une pénurie telle aujourd'hui de médicaments, par exemple, reconnue d'ailleurs par le gouvernement cubain, une pénurie de nourriture, l'essence aussi qui était subventionnée, qui est aujourd'hui très très chère, les prix ont augmenté de 400%. Comment au quotidien, puisque vous effectuez très régulièrement des terrains à Cuba, comment est-ce que vous ressentez cette crise-là?
Alors déjà, quand on parle de crise, on pense à un moment de rupture, de disruption dans une économie qui aurait été stable à un moment. À Cuba, c'est plutôt une crise qui est structurelle depuis les années 90 et la chute de l'URSS qu'a provoqué la crise de la période spéciale en temps de paix, donc 12 euphémismes hein, pour parler d'une économie de guerre en fait, dans un pays qui ne l'était pas. Et cette crise, elle est multifactorielle avec les facteurs qu'on a expliqué, des facteurs internes, hein, des dynamiques liées à un marasme économique, une économie planifiée qui fonctionne plus, des dysfonctionnements de la chaîne productive, et puis les facteurs exogènes liés à l'embargo. Et sur le terrain, bah, en fait, c'est un effondrement total de l'économie cubaine, avec une économie de pénurie au quotidien, l'électricité, la nourriture qui viennent à manquer. Et l'électricité, par exemple, est due à plusieurs raisons qui se rejoignent tout à la fois pour créer un effondrement du réseau électrique avec le manque d'importation de fuel, vu que le réseau électrique fonctionne sur 8 centrales thermoélectriques qui datent toutes plus de 35-40 ans, dont le cycle de maintenance est réduit et difficilement entretenu par manque d'importation et donc par manque aussi d'importation de fuel pour le faire fonctionner, parce que le Venezuela, qui était le principal allié de Cuba, est lui-même en grave crise économique depuis 2017 et a réduit ses exportations de pétrole vers Cuba à peu près un tiers du volume qu'il exportait au précédent. Donc, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne du délestage sur les réseaux électriques à La Havane, qui est le poumon économique de l'île, avec un programme avec des coupures de courant de 4-6 heures tous les deux jours par quartier. Et dans le reste du pays, c'est le contraire. C'est même plus des coupures d'électricité, c'est des alumbrones, comme le disent
en riant jaune les Cubains, où on ne coupe plus le courant, on l'allume quelques heures par-ci par-là, même dans certaines zones ultra touristiques comme le petit village de Vignales à l'ouest du pays. Donc ça, c'est pour l'électricité qui est quand même essentielle au fonctionnement du pays, et puis qui va aussi influencer le fait que des touristes qui sont prêts à mettre un certain prix dans leurs vacances préfèrent aller dans des zones où on aura une qualité de vie, une qualité touristique meilleure. Pour l'alimentation, pour la première fois, Cuba a demandé l'aide du Programme alimentaire mondial l'année dernière. L'État se désengage de toutes les formes de subventions auxquelles il participait, sur l'essence, sur la nourriture, avec la libreta, le ticket de rationnement, qui est réduit à peau de chagrin également, et qui suffit plus à nourrir la population.
L'essence notamment, qui était subventionnée autrefois, qui est aujourd'hui très chère, alors aussi et surtout parce que les États-Unis ont imposé des sanctions aux pays qui exportaient du pétrole à Cuba, que ce soit le Venezuela, le Panama, le Royaume-Uni, Chypre aussi, mais également les problèmes se surajoutent parce que des dépôts de carburant sont partis en fumée lors d'un grand incendie en 2022 dans la ville de Matanzas. Désormais, le pétrole brut est stocké dans des bateaux-citernes. Donc, Margot François, vous parliez de ces subventions qui n'existent plus pour certains produits de première nécessité ou du quotidien. Thomas Posado, d'autres mesures qui ont été prises à l'arrivée au pouvoir de Miguel Díaz-Canel en 2018, la libéralisation par exemple d'une partie de l'économie, des petites entreprises privées, qu'est-ce que ça a changé ?
On a cette dynamique où on essaye d'attirer des capitaux, où on essaye de libéraliser l'économie, mais sans le faire vraiment, parce que déjà ça crée des inégalités, puis qu'il y a la pression des États-Unis qui demeure et qui pourrait renverser le gouvernement. On a une mesure importante qui s'est prise en 2021, qui est la fin de la double monnaie. On a eu pendant longtemps un système entre 1994 et 2021. Un système de double monnaie avec un peso national et une monnaie convertible, donc qui avait parité avec le dollar, et qui faisait marcher cette double économie sans véritable inflation. Une économie subventionnée à laquelle les Cubains avaient accès et une économie à prix subventionné où il y avait les prix à parité avec le dollar qui justement n'était pas subventionné et à laquelle payaient les touristes ou à laquelle les Cubains pouvaient acheter des produits importés assez cher par rapport à leurs revenus. Depuis 2021, cette mesure s'est arrêtée, mais de fait, il subsiste plusieurs monnaies, une monnaie librement convertible, le peso cubain, l'usage du dollar ou de l'euro, et on a aussi surtout un phénomène d'inflation qui n'existait pas à Cuba ces dernières décennies et qui rend l'accès à ces produits d'autant plus difficile que les revenus sont maigres. Hein. Les Cubains gagnent quelques dizaines de dollars. Et c'est les produits d'importation sont extrêmement chers dans l'île.
Justement, quand a été libéralisée une partie de l'économie, on estime à ce jour que 50 000 auto-entrepreneurs ont été autorisés depuis à Cuba, qui œuvrent surtout dans l'importation, qui ont aussi creusé les inégalités. Certains ont accumulé des richesses, d'autres pas, même si ça s'est sans doute fait un peu plus progressivement. Mais le Premier ministre cubain s'est officiellement indigné, par exemple récemment, de la présence dans les rues désormais de pick-up dernier cri. Alors, on disait tout à l'heure que toutes ces restrictions, pénuries ont nourri une colère qui a éclaté en 2021 lors de très grandes manifestations. Il se trouve, Margot François, que vous travaillez sur les enjeux de la connexion à Internet à Cuba. Aidez-nous à comprendre à ce sujet la position du gouvernement états-unien, de Marco Rubio encore une fois, qui à la fois milite pour l'accès des Cubains à un Internet libre, c'était l'objet d'une proposition de loi qu'il avait présentée au Sénat quand il était lui-même sénateur, et s'oppose en même temps à la construction d'un câble sous-marin qui relierait Miami à Cuba. Quel est pour les États-Unis cet enjeu de l'accès de Cuba à Internet ?
Alors oui, là c'est toute l'ambivalence de la position états-unienne sur cette question et puis de l'importance des télécommunications au cœur des périodes à la fois de dégel et de restrictions entre les deux pays. Et alors l'ambivalence, elle existe parce que il y a cette représentation très forte côté états-unien que l'accès à Internet serait un fer de lance de la démocratie, un peu sur le modèle des révolutions du jasmin des pays arabes en 2011 et du rôle qu'on a prêté à Twitter dans ces manifestations-là. Et donc ce qu'essaye de faire l'administration Trump avec une Internet Task Force votée à l'époque et puis des propositions de loi un peu coup de poing systématiquement présenté par certains sénateurs comme Marco Rubio, mais aussi Ted Cruz, Maria Elvira Salazar, c'est amener plus de connexions pour un flux plus libre d'informations à Cuba qui échapperait à la censure du régime et donc pour cela sans passer par les autorités cubaines. Et donc on voit des situations où, par exemple, pendant la guerre en Ukraine, quand Elon Musk a apporté une connexion via Starlink sur le champ de bataille, on a Maria Elvira Salazar qui a demandé publiquement à Musk de faire pareil avec Cuba. Ou d'amener des ballons aérostats. Mais lorsqu'il s'agit de propositions concrètes, donc notamment la construction d'un câble sous-marin de fibre optique sur lequel repose 99% du trafic des données numériques, directement entre Cuba et une entreprise américaine, là, Marco Rubio écrit une lettre ouverte à la Commission fédérale des communications états-unienne pour dire que ce serait un grave danger en agitant le spectre d'une surveillance chinoise, d'un espionnage chinoise pour justifier de ce refus qui a finalement été acté d'ailleurs par la FCC de connecter directement par un câble Cuba et les États-Unis.
Donc les autorités cubaines ne peuvent pas faire grand-chose. Elles ont quand même Cuba la fibre optique, je crois, via le Venezuela ou la Martinique. Il y a de toute façon cette conviction, Margot François, que Internet peut apporter la démocratie à Cuba. Mais alors quoi, quand il vient des États-Unis, quand des chaînes de radio, de télévision arrivent à émettre à Cuba, par exemple, mais depuis la Floride, ou un réseau social qui a existé jusqu'en 2012, là, le réseau social Zunzuneo.
Voilà, c'est une stratégie qui se veut un petit peu nouvelle, enfin des nouveaux moyens dans une stratégie ancienne, puisque dès les ondes radio, il y avait Radio Télévision Marti qui existait pour bombarder Cuba d'émissions anticastristes et Cuba s'en plaint tous les ans à l'ONU comme d'une violation de ces ondes radio, ou alors des survols en avion pour lâcher des tracts anticastristes sur la Havane. On a vu ça à une époque, et puis au fur et à mesure de l'évolution des technologies, de l'information et de la communication. Vous l'avez mentionné, par exemple, en 2011-2012, ce faux Twitter appelé Zunzuneo, du nom d'un colibri endémique de Cuba, qui visait à diffuser des messages pour réveiller, j'utilise leur terme, un printemps cubain sur l'île et renverser le régime. Donc, toutes ces méthodes-là, qui maintenant se transcrivent autrement avec des méthodes d'influence, des campagnes de hashtag, sont qualifiées de tentatives de subversion idéologique par le régime cubain, qui en a même fait d'ailleurs tout un pan d'une exposition permanente dans le nouveau musée, pendant que le musée de la Révolution est fermé pour travaux. Il y a le centre Fidel Castro qui a ouvert à la Havane, et ça fait partie vraiment des luttes d'une Cuba qui serait un peu un David contre Goliath face à l'hégémonie américaine dans le cyberespace.
Et d'ailleurs, le régime castriste, à l'époque, c'était Raúl Castro, a pu interrompre la diffusion de Zunzuneo en 2012. Cette application qui diffusait des messages anticastristes, une sorte de Twitter par SMS, et qui était financée d'ailleurs en partie par l'USAID, l'aide américaine à laquelle Donald Trump a mis fin ou a considérablement sabré il n'y a pas très longtemps. Alors, vous expliquez, Margot François, dans vos travaux, qu'à Cuba, pour les autorités cubaines, on est passé dans les discours de Internet, c'est pas bien, à on n'a pas les moyens de développer la connexion. Thomas Posado, est-ce que les jeunes cubains aujourd'hui s'expriment relativement librement sur les réseaux sociaux ?
Mais c'est plus complexe de s'exprimer, d'accéder à Internet et de s'exprimer que dans n'importe quel autre pays occidentaux, pour les raisons que vous avez mentionnées. Il y a une volonté de s'exprimer, il y a des moyens par l'art de s'exprimer qui est un des vecteurs de contestation du gouvernement. Maintenant, enfin voilà, le poids du gouvernement gouvernement, la limitation à la liberté d'expression sont toujours majeures. Les arrestations sélectives, c'est pas forcément systématique, hein, mais sélectives pour phagocyter ou pour empêcher l'expression de toute mobilisation massive, continue à exister et de manière importante à Cuba, quoi.
Peut-être une dernière question, Thomas Posado, pour cette première partie. Est-ce que le Cuba et dans quelle mesure se tourne aujourd'hui vers la Chine pour trouver d'autres alliés, d'autres façons de survivre?
Cuba est devenu un des membres associés des BRICS, donc enfin c'est le signe, hein, de cette recherche de partenaires géopolitiques qui lui permettent d'échapper à cette asphyxie états-unienne. De fait, il y a des entreprises européennes, brésiliennes, chinoises qui exerce sur le sol cubain, qui exerce avec les grandes limitations que met en place le blocus états-unien. Ce qui se passe, les tensions géopolitiques internationales font que oui, se tourner vers les BRICS au moment où il y a cette potentielle guerre commerciale entre les États-Unis et d'un côté et la Russie et la Chine de l'autre, on peut imaginer que Cuba puisse trouver des partenaires de ce côté-là. Après, Cuba a malheureusement assez peu de ressources à offrir dans ce cadre-là, mais c'est une des issues que le gouvernement cubain imagine à cette crise. Enfin, le gouvernement cubain, une de ses ressources a souvent été d'exporter des médecins, d'exporter son savoir-faire médical à l'étranger, qui est une ressource de devise de plusieurs milliards de dollars par an. Mais face à des puissances comme la Russie et la Chine, c'est effectivement sans doute les puissances qui lui permettraient de contourner cet embargo, d'autant plus si les tensions géopolitiques s'accroissent.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar, pa' demostrarte que sí, ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Mambo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9-2-2.
Ya se acabó.
60 años, trancada el dominó. Mira.
Se acabó. Tu 5-9-2-2. Ya se acabó. 60 años, trancada el dominó.
Patria y Vida, c'était l'hymne de la protestation des grandes manifestations de 2021, hymne qui parodiait le slogan de Fidel Castro, Patria o Muerte, la patrie ou la mort. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur la Caraïbe dans l'ombre des États-Unis. Aujourd'hui, Cuba, que Donald Trump a remis sur la liste des États terroristes, qui durcit encore l'embargo contre l'île. Cuba, où les États-Unis disposent encore d'un territoire de 117 km², Guantanamo, où ce sont désormais des migrants illégaux que le président américain veut pouvoir envoyer.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
La plupart des gens ne le savent même pas, mais nous disposons de 30 000 lits à Guantanamo pour détenir les pires criminels étrangers en situation irrégulière qui menacent le peuple américain. Certains d'entre eux sont si dangereux que nous ne faisons pas confiance au pays qui les détiennent parce que nous ne voulons pas qu'ils reviennent. Nous allons donc les envoyer à Guantanamo. Cela doublera immédiatement le nombre de places disponibles.
Et comme Donald Trump l'a annoncé, les États-Unis ont commencé à expulser des migrants, une douzaine pour l'instant vers Guantanamo, où le président américain compte faire construire un centre de rétention géant, profitant ainsi de cette base où le droit international ne régit pas grand-chose. Bonjour Jean-Baptiste Thomas.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en civilisation et histoire latino-américaine contemporaine à l'École Polytechnique de Paris. Vous êtes le co-auteur avec notre invité Thomas Posado de Révolution à Cuba de 1868 à nos jours, paru aux éditions Sileps. D'abord sur ce projet en particulier, ce centre de migrants qui serait, selon Donald Trump, destiné à des migrants présentant un grand danger. Ce sont ces mots. Ce serait où exactement? Sur le lieu même de la prison militaire où sont encore enfermés quelques détenus dont le cerveau présumé des attentats du 11 septembre?
Alors, vous avez effectivement Guantanamo, cette enclave, 117 km², donc un peu plus grand que l'île de Jersey dont vous parliez au tout début du son, avec plusieurs camps, à la fois donc des camps militaires, des camps pour le personnel civil, un camp bien mal nommé Camp Justice, où sont encore internés donc des combattants illégaux, donc qui ne sont pas reconnus comme des prisonniers de guerre selon les conventions de Genève. Et puis, dans une autre partie donc de la base militaire de Guantanamo, l'idée brandie par Trump d'étendre les capacités d'accueil entre guillemets pour recevoir donc jusqu'à 30 000 migrants illégaux. Le chiffre est absolument sidérant et très probablement ça fait partie d'un effet de bluff, mais en tout cas c'est effectivement donc l'idée de transformer cette zone, cette enclave qui est un état d'exception permanent et territorialisé des États-Unis en un camp de rétention, en un camp de détention pour migrants, qui sont évidemment assimilés dans le discours de Trump et de son administration, donc à des délinquants, à des criminels, à un ennemi intérieur dont il faudrait se débarrasser, en mobilisant ce faisant, donc imaginaire impérial et impérialiste des États-Unis, à travers Guantanamo, qui est cette référence géographique fantasmée de la toute-puissance impériale états-unienne dans la Caraïbe.
Donald Trump, c'est vrai, parle d'y enfermer le pire du pire, c'est l'expression employée par lui et plusieurs responsables républicains de ce projet, des étrangers criminels, dit-il, hautement prioritaires et présents illégalement aux États-Unis. Donc lui promet que ce ne seront que des personnes qui auront commis des crimes. On sait très peu de choses sur ce site, sur les conditions de détention des migrants, puisqu'il y a déjà ce centre, cette petite installation séparée utilisée depuis longtemps pour détenir des migrants. L'Union américaine pour les libertés civiles demande d'ailleurs régulièrement des documents sur ce site. Et le président cubain, Miguel Canel Díaz, a parlé au sujet des déclarations de Trump d'un acte de brutalité, ce territoire cubain illégalement occupé. Rappelez-nous, Jean-Baptiste Thomas, dans quel contexte les États-Unis ont commencé à louer cette base à Cuba au début du XXe siècle?
Alors effectivement, c'est véritablement une location, alors un bail comme dans le cas du Panama, et c'est la même époque, c'est 1903, un bail qui n'est pas résiliable, un bail permanent, alors qui est loué pour 4000 dollars américains aujourd'hui par l'administration américaine, qui continue à payer un chèque qui est déposé sur un compte qui n'est pas touché par le gouvernement cubain, bien entendu, depuis 1959.
Pourquoi bien entendu? C'est le gouvernement cubain qui refuse de toucher cet argent? C'est
tout à fait, parce qu'il conteste effectivement les conditions et la légalité de cette occupation militaire permanente depuis 1903. Donc lorsque les États-Unis interviennent au tout dernier moment dans la dernière guerre de libération cubaine contre la couronne espagnole, et donc de façon contemporaine sur deux autres théâtres d'opération, Puerto Rico et les Philippines, en 1898, donc il y a de cela plus d'un siècle évidemment, et lorsque, à la différence des Philippines et de Puerto Rico, les États-Unis sont décidés à... où on les décide en tout cas à quitter Cuba, donc en 1901. Lorsque les États-Unis quittent Cuba, ils quittent Cuba pour mieux y rester. Donc d'abord en intégrant à la Constitution cubaine un amendement plate, hein, qui permet aussi, paradoxalement que cela puisse sembler, qui permet aux États-Unis d'intervenir pour défendre l'indépendance de Cuba ou ses propres intérêts dans les affaires intérieures du pays, donc ce qui permet effectivement des interventions militaires qui seront en tout cas, non pas monnaie courante, mais qui seront régulières sur l'île, notamment entre 1906 et 1909. Et puis à cela est adjoint un second traité, bien mal nommé traité de réciprocité en 1903, qui prévoit notamment la location par la jeune République cubaine d'une base navale et charbonnière, donc c'est-à-dire une sorte de port d'attache dans lequel les États-Unis peuvent approvisionner, ravitailler leurs bateaux, leur marine de guerre, peuvent également stationner des troupes. C'est le rôle exclusif, en tout cas selon les termes de ce traité, qui serait celui de Guantanamo, et qui est aujourd'hui encore donc à la base de cette occupation, qui est une violation de la souveraineté cubaine sur l'île.
Donc les États-Unis sont censés y payer un loyer de 4 080 $ par an, ce qui pour 117 km² n'est pas grand-chose par ailleurs. Et vous le disiez, le gouvernement cubain n'encaisse pas ce chèque pour des questions de principe. Et d'ailleurs, ça ne suffirait pas à combler, loin s'en faut, les dommages provoqués par l'embargo que le gouvernement cubain estime à plus de 5 milliards de dollars, par exemple, la seule année 2023. Pourquoi la révolution castriste sous Fidel Castro, pourquoi est-ce qu'on n'a pas remis en cause ce bail?
Alors, ce bail, en tout cas, la révolution castriste et le gouvernement révolutionnaire n'avaient pas les moyens de remettre en cause, en termes d'un rapport de force direct et militaire, la présence états-unienne à Guantanamo. En revanche, ce qui a été fait, c'est d'un point de vue légal, à travers un certain nombre d'instances, de contester la validité de cette occupation, de cette violation de la souveraineté cubaine, à plusieurs niveaux. Dans deux cas en particulier, en faisant appel notamment à la Convention de Vienne sur les traités internationaux de 1969, qui, hélas, n'est pas rétroactif, mais qui implique en tout cas qu'un traité ne peut pas être signé sous la contrainte et sous la coercion. Et en l'occurrence, évidemment, le traité de réciprocité de 1903 avait été imposé à l'État cubain, ou en tout cas à ses hommes de paille à l'époque, par l'administration états-unienne.
En échange de l'indépendance, en fait, obtenue par Cuba à la faveur de la victoire des États-Unis sur l'Espagne. Donc ça, les États-Unis étaient en position de force, c'est ce que vous voulez dire?
En position de force, ou en tout cas voulait ou avait repris dans le combat, y compris du récit de la libération de l'île, cette position, puisque la libération cubaine, en tout cas les guerres de libération qui sont menées contre la couronne espagnole, sont avant tout menées par les Cubains et les Cubaines. Le deuxième élément est le fait que quand bien même on pourrait imaginer que ce traité a une quelconque validité, le traité qui préside en tout cas l'occupation de Guantanamo, il est stipulé précisément que la seule utilisation possible de la base qui a été concédée est une utilisation charbonnière et navale. Et en l'occurrence, le fait d'y interner, le fait d'y détenir, le fait d'y emprisonner, soit ce que l'administration Bush avait appelé des combattants illégaux ou des personnes en situation irrégulière, contrevient y compris au traité qui a été paraffé par le président Roosevelt.
Et d'ailleurs, il y contrevient depuis 1994, puisque malgré les engagements pris, les États-Unis avaient ouvert à Guantanamo un camp de détention pour enfermer à l'époque des Haïtiens qui avaient pris part au coup d'État de 1991, celui qui avait conduit au renversement de Jean-Bertrand Aristide. Et c'est ce camp de détention qui servira ensuite pour les détenus soupçonnés de terrorisme après les attentats du 11 septembre. La plupart n'ont jamais été jugés, d'où l'état d'exception dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, Jean-Baptiste Thomas. Est-ce que les démocrates, les présidents états-uniens Joe Biden ou Barack Obama, ont déjà cherché à remettre en cause ce statut?
Alors les démocrates états-uniens ont une longue histoire de complicité, en tout cas indépendamment de leur discours et de leur rhétorique, par rapport à la politique d'agression systématique et d'hostilité permanente à l'égard de Cuba. Il suffit de rappeler que c'est bien Kennedy effectivement qui appuie sur le bouton pour lancer l'invasion et l'échec que sera la baie des cochons. Et par la suite, les administrations démocrates, en tout cas, feront que très peu pour, jusqu'à Obama en tout cas, pour remettre en cause justement cette asymétrie et cette agression permanente vis-à-vis de Cuba. Alors il y avait eu effectivement des promesses d'Obama dans un premier temps, puis de Biden dans un second, de remettre en cause et de fermer ce camp, en tout cas pour ce qui est de la partie justement où sont détenus des combattants illégaux. Et à aucun moment, mais un peu à l'image de ce que Biden aurait pu faire par rapport à au fait que Cuba avait été placé sur la liste noire des États soutenant le terrorisme par Trump juste avant de quitter la Maison Blanche lors de son premier mandat, à aucun moment, en tout cas, ils se sont donné véritablement les moyens de mettre fin à cet état d'exception.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Thomas. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez co-signé avec Thomas Posado, qui était également notre invité pour la première partie de cette émission, Révolution à Cuba de 1868 à nos jours aux éditions Sileps. Merci beaucoup à Margot François, également doctorante à l'Institut français de géopolitique et au centre de recherche Géode, d'avoir été avec nous pour ce deuxième épisode de notre série sur la Caraïbe dans l'ombre des États-Unis.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutour.
Alors que les chefs des diplomaties russes et états-uniennes se retrouvent aujourd'hui en Arabie Saoudite, l'Europe s'inquiète des négociations sur la fin du conflit en Ukraine et vous nous faites découvrir, Catherine, ce qui se cache derrière la fabrication de drones russes lancés contre l'Ukraine.
La Russie, en guerre, manque de main-d'œuvre et ce sont donc des Éthiopiennes, des Tanzaniennes, des Maliennes, des Burkinabés, des Congolaises notamment, qui se retrouvent à assembler des drones dans la région russe du Tatarstan, à environ 1000 km à l'est de Moscou, raconte le média éthiopien The Reporter dans un article repéré par Courrier International, après plusieurs enquêtes aussi de l'agence de presse AP ou encore de Jeune Afrique. C'est par des publicités et des messages sur les réseaux sociaux que ces jeunes femmes africaines, âgées de 18 à 22 ans, sont attirées vers la Russie dans le cadre du programme Alabuga Start. Promesse de vie meilleure, de formation professionnelle vers l'hôtellerie, explique The Reporter. On leur offre un billet d'avion, le logement. Et dans une vidéo Instagram relayée par une jeune femme qui dit représenter le Botswana en Russie, on peut ainsi voir Rachel répondre aux questions posées par un représentant du programme Alabuga Start.
Je suis congolaise de la RTC. Je connais ce programme à travers l'Internet et je me suis dit je peux pas dépendre que de mes parents. Et à travers ce programme, ça m'a aidé de me développer en soi-même pour connaître un peu plus de formation et tout va bien.
Une propagande bien rodée, souligne Jeune Afrique. L'équipe d'Alabuga Start a multiplié les rencontres avec les diplomates africains l'an dernier. Elle s'est rendue à l'ambassade du Mali en Russie. Elle a reçu dans ses locaux des représentants de la Sierra Leone, du Zimbabwe, du Kenya et de la Tanzanie, ainsi que du Burkina Faso, explique encore Jeune Afrique. Mais au lieu d'un programme d'études-travail dans l'hôtellerie et la restauration, ajoute l'agence AP, ces jeunes africaines ont appris une fois arrivées dans les steppes du Tatarstan qu'elles allaient travailler dans une usine de fabrication d'armes de guerre, assemblant des milliers de drones d'attaque de conception iranienne destinés à être lancés sur l'Ukraine aux côtés de jeunes étudiants russes.
Donc ce ne sont pas ceux qui se cachent derrière la fabrication de drones russes, mais bien celles qui se cachent, Catherine Dutu, et les conditions de travail sont épuisantes.
Jusqu'à 12 heures par jour, avec des pauses aléatoires, surveillance constante, équipement insuffisant également pour manipuler des produits chimiques qui donnent l'impression d'être piqués au visage par de minuscules aiguilles, de fortes démangeaisons, décrit VOA, la radio internationale financée par les États-Unis. Alors, pour attirer davantage de candidatures, l'initiative présente fréquemment des témoignages de jeunes femmes africaines déjà présentes en Russie qui racontent leurs expériences comme des réussites, indique le média éthiopien The Reporter. J'ai repéré d'ailleurs plusieurs articles qui relaient le supposé témoignage élogieux d'une jeune femme ougandaise ravie de sa participation au programme Alabuga Start. Elle incite à suivre son exemple, notamment dans le journal en ligne 24 heures au Bénin cet automne, mais aussi le mois dernier. Cette jeune femme prétend gagner plus de 1 300 $ dans une Russie exempte de racisme, dit-elle, contrairement aux États-Unis. La propagande russe a fonctionné à plein régime aussi en Algérie, sur le site Algérie 360 degrés, en RDC, via Zoom Echo, mais aussi dans le journal du Tchad, sur CNews au Sénégal ou au Burkina Faso via infowakat.net. Avec à chaque fois les mêmes photos qui reviennent à longueur d'articles, comme j'ai pu le voir ce matin. Google, Meta et TikTok ont supprimé des comptes de réseaux sociaux visant à recruter ces jeunes africaines pour fabriquer ces drones russes dans la zone économique spéciale d'Alabuga, qui est sous sanctions américaines et britanniques, rappelle l'agence de presse AP, mais d'autres comptes continuent de fonctionner.
Et les milliers de drones qui y sont assemblés sont de conception iranienne, Catherine.
sous un grand hangar métallique divisé en sections par des bâches vertes. Ce sont effectivement des sheds iraniens notamment qui sont produits, révèle Jeune Afrique et le Washington Post. Après la signature d'un contrat de près de 2 milliards de dollars, indique le média indépendant russe Medusa, le Wall Street Journal et le magazine Forbes, contrat partiellement payé en or, l'Iran préférait visiblement cela au rouble, rapporte Medusa. L'usine d'Alabouga devait produire 6000 drones d'attaque Shahed par an, en plus de drones de surveillance, affirme Prana Network, un groupe de hackers iraniens. Mais finalement, ils sont en avance sur le calendrier, alerte l'Institute for Science and International Security, un groupe de réflexion basé à Washington. Ces drones Shahed font des dégâts, souligne Euromaidan Press et le journal Kif Independent. Ce week-end, par exemple, des frappes contre des infrastructures énergétiques civiles, contre une centrale électrique, ont laissé plus de 100 000 Ukrainiens sans chauffage à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine.
Et pour finir, c'est ce que plusieurs médias états-uniens redoutaient sous la présidence Trump, de Donald Trump.
Un conflit d'intérêts dans la croisade anti-fédérale d'Elon Musk. Les employés de SpaceX, la société de l'homme le plus riche de la planète, espèrent donner un nouveau souffle au contrôle aérien aux États-Unis, alors que dans le même temps, l'administration Trump réduit le personnel de la Federal Aviation Administration, rapporte le magazine Rolling Stone et le Washington Post. Les lancements de fusées de SpaceX sont réglementés par cette agence fédérale qui a accusé SpaceX d'avoir violé les règles de sécurité par le passé, indique le Washington Post. Si vous avez la moindre question sur la revue de presse internationale, une seule adresse, je vous la rappelle, pour nous écrire fcrdpi@radiofrance.com. Nous répondrons à vos questions avec un invité dans la chronique interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu.